L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien, rebonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous et nous sommes toujours ici en direct à l'Association des maires d'Île-de-France. C'est un salon qui a lieu tous les ans et pour la première fois cette année, il a lieu Porte de Versailles. Il est temps encore de venir si vous voulez savoir comment la ville se fabrique aussi, comment les élus du territoire voient justement ce morceau de France, qu'est l'Île-de-France. Je le rappelle, c'est un cinquième de la population française. C'est un miroir sur le monde. On l'appelle d'ailleurs une région ou une ville monde. C'est bien, finalement, si vous avez la possibilité de passer nous voir sur le plateau de Radio Imo et de Radio Territoria. On le sait avec les différents, aujourd'hui, rapports alarmants, notamment le GIEC, hein, que vous avez vu, il y a une urgence, plus qu'une urgence, j'ai presque dire une injonction, collectivement, de transformer, bien sûr, nos habitudes, nos modes de vie, à l'échelle individuelle, bien évidemment, mais aussi au niveau de la construction, puisqu'on le sait aujourd'hui, la construction, c'est le deuxième émetteur de carbone au monde. Le gouvernement n'est pas resté inactif. Hein. Les lois anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi climat et résilience qui a été adoptée le 21 août 2021, respectivement donc promulguée pour la première en 2020 et ensuite en 2021. Tout ça vise à transformer nos modes de vie durables pour que justement nous soyons dans un cadre ou dans une ville apaisée. Sur le terrain, en pratique, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça représente exactement? De quoi parle-t-on surtout quand on parle d'économie circulaire, recyclage, construction, réemploi? Les acteurs de la construction sont nombreux. Se sont-ils emparés du sujet? Quels sont les chantiers mis en œuvre? Aussi les freins, hein, puisqu'il faut aussi, il y a des freins, peut-être un peu de résistance. En tout cas, il est intéressant de décrypter la perspective de ces nouveaux acteurs. Je vous propose, pour répondre à toutes ces questions, et nous sommes ravis d'accueillir sur le plateau, pour cette table ronde, avec nos partenaires de Mille et Une Vie et Habitat, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Malo Pellet. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Ben écoutez, fort bien.
Voilà, et je vous l'ai dit hors antenne, j'adore votre prénom, donc je vais me permettre de vous appeler Jean-Malo.
Merci.
Alors Jean-Malo, vous êtes directeur aménagement et grand projet valorisation foncière chez Mille et Une Vie et Habitat. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir également de recevoir Christine Bralet. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Très bien.
Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes directrice ingénierie et opération chez Batirim.
C'est ça.
Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir également de recevoir Colline Blaison.
Bonjour.
Comment ça va Colline?
Très bien.
Alors Colline, vous êtes la directrice conseil et études de Cycle Up.
Parfait.
Voilà. Vous voyez, je l'ai dit. Hein. Voilà. Vous allez nous expliquer ce que vous faites, bien évidemment, parce que je voudrais que chacun, justement, puisse présenter aussi son activité. Également avec nous, Pierre Frick est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Pierre?
Ça va bien, c'est ma fête aujourd'hui.
Voilà, je vous souhaite une excellente fête.
Voilà. Bonne fête.
Très belle fête. Voilà, c'est la Saint-Pierre.
Et Paul.
Voilà.
Saint-Pierre et Paul.
Voilà, Pierre et Paul. Mmh. Absolument. Bon, vous êtes pêcheur?
Non.
Bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
Pêcheur ou pêcheur.
Ah, pas mal. Pas
mal. L'un des deux, sûrement.
Vous êtes adjoint au directeur à la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales à l'USH, l'Union sociale de l'habitat. Et d'ailleurs, on va se revoir bientôt, parce que fin septembre, c'est le congrès.
À Bordeaux.
Qui a lieu à Bordeaux. Voilà. Je vais commencer par vous, si vous voulez bien, Jean-Malo.
À Lyon.
C'était l'année passée. Oui. Bah non, c'était l'an passé.
Oui. Évidemment, Bordeaux, c'est l'année dernière.
Bravo. Voilà. Bon. On va remettre d'ailleurs, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on mettra les dates aussi du congrès qui a lieu à Lyon. Cette année, c'est fin septembre. On sera présent, bien évidemment, pour couvrir l'événement. Jean-Malo, le directeur aménagement et grand projet, un mot sur Mille et Une Vie Habitat.
Alors un mot, ça va être dur, je vais en utiliser peut-être plusieurs. Donc Mille et Une Vie Habitat, nous sommes un bailleur social. Nous gérons 90 000 logements en France, ce qui représente 230 000 locataires. C'est important de le savoir. Nous sommes un groupe à l'échelle nationale qui a plus de 60 ans d'histoire et qui est un peu particulier dans l'écosystème du logement social, puisque à côté des organismes qui sont rattachés aux villes, nous avons un actionnaire qui est AXA, un actionnaire majoritaire qui est AXA, qui nous permet effectivement d'avoir une certaine autonomie dans le paysage politique. Nous avons en 2021 mis en chantier 1200 logements à l'échelle territoriale. Nous en avons livré 1500. Et j'ai envie de dire, notre ADN, c'est d'être d'avoir la force d'un groupe au service des territoires, ce qui fait que nous avons plusieurs implantations géographiques par un système de filiales sur l'ensemble du territoire. Et nous sommes un acteur engagé pour avoir au service des locataires, des habitants, des élus, des territoires, pour avoir effectivement offrir un habitat qui soit durable. Je pense que c'est vraiment le terme que nous gérons depuis des années, j'ai envie de dire, en tant que bailleur social, un habitat qui a vocation à être durable dans l'ensemble du cycle. Je fais un peu le préambule avec ce que Laurent va se dire.
C'est très clair.
Et donc voilà ce que représente Milinvie Habitat.
Merci, merci beaucoup Jean Malou. Alors Christine, je vais vous demander aussi également de nous présenter en quelques mots Batirim.
Alors Batirim est une jeune société alors, qui s'est créée en mode start-up, mais eu écho à ce qu'on disait juste avant le début de l'émission, on serait presque en mode maintenant scale-up. Et qui est issu de la rencontre, on va dire, de deux acteurs majeurs, chacun dans leur domaine de compétence. Donc Suez, pour tout ce qui est gestion et valorisation de la ressource. Et puis Kernial, qui se veut voilà, un leader dans le domaine digital.
Alors, respectivement, 60 et 40%.
C'est ça, voilà, 60% pour Suez, 40% pour Kernial. Voilà, donc accélérateur dans le domaine digital sur les métiers de l'immobilier et de la construction. Donc la rencontre de ces deux acteurs a permis de faire émerger Batirim, qui se veut, voilà, notre raison d'être, c'est vraiment de mettre en marche une démarche d'anticipation, d'études, de conseils pour accompagner nos clients dans la mise en œuvre de leur stratégie économie circulaire, que ce soit dans la déconstruction, la rénovation de sites et également la construction neuve. L'idée étant de faire le lien entre toutes ces typologies de projets. Alors on s'appuie effectivement sur une équipe pluridisciplinaire, compétente, des architectes, des ingénieurs issus du BTP, de la gestion de la ressource, et puis des chargés de projet aussi opérationnels, parce qu'il y a beaucoup de... Il faut être sur le terrain et sur les chantiers. Et puis on s'appuie également sur un outil digital qui a été développé spécifiquement pour notre activité, qui est innovant encore à ce jour et qui permet dans un premier temps de créer un jumeau numérique d'un bâtiment, donc un posteriori, de manière à pouvoir inventorier sur plan de manière très précise tous les éléments constitutifs du bâtiment, les qualifier, les quantifier et les géolocaliser. Et puis une fois qu'on a cette donnée capitalisée, et bien l'idée c'est effectivement de la faire vivre tout au long de la vie du projet et de la capitaliser avec l'ensemble des parties prenantes.
Donc vous établissez pour justement une cartographie digitale du bâtiment. On peut parler de jumeaux numériques.
C'est ça, exactement. On crée une maquette numérique d'un bâtiment existant. Donc on se veut un peu, on a d'ailleurs nommé cette technologie le RIM. Qui est inspiré du BIM, hein. Donc on se veut un peu l'inverse du BIM, puisque nous on va modéliser la ressource,
on va faire des ressources. On va juste rappeler à nos amis le BIM, c'est le Building Information Modeling, ou Management, ça dépend des conditions, mais c'est plutôt modeling, et le RIM.
Le RIM, ça va être le Resource Information Modeling, donc l'inverse du BIM.
Et en fait, qui permet de faire vivre le bâtiment et d'avoir. Parce que l'avantage du jumeau numérique, justement, c'est qu'on a un niveau de précision de la donnée qui est exceptionnel. L'intelligence artificielle qui est capable de restituer ce type de données.
Tout à fait. On est au centimètre près, puisqu'on travaille sur des plans qui ont été mis à l'échelle. Et effectivement, en termes de qualification et de quantification des déchets et des produits équipements matériaux, puisque maintenant on parle de...
C'est un vrai outil de pilotage.
Oui, tout à fait.
Vrai outil
De structuration, de mise en visibilité de la donnée, et ensuite effectivement de partage.
Diagnostic PEMD, donc produits, diagnostics, matériaux, déchets. Vous avez aussi le gros avantage dans ce domaine, c'est de pouvoir identifier les principes de réemploi. Donc on est vraiment dans...
Tout à fait.
Là, du coup, ça donne corps, en fait, au concept d'économie circulaire, parce que souvent, on utilise comme une incantation parfois politique. Et là, du coup, là, c'est très concret.
Tout à fait, parce que chaque... on a défini tout un mode de qualification de la donnée. Et parmi ceux-là, bien sûr, les modes de traitement, en privilégiant d'abord le réemploi, la réutilisation, le recyclage. Donc on s'inscrit déjà dans la hiérarchie des modes de traitement, des modes de gestion.
Je trouve ça remarquable, remarquable. Pierre Frick, en quelques mots, l'USH. Tout le monde connaît l'USH.
Tout le monde le connaît. C'est la Confédération des organismes nationaux.
Oui. C'est la puissance C'est l'artère, j'allais dire, fémorale du logement français.
Quoi. C'est 5 millions de logements en gestion, 100 000 logements neufs par an, 150 000 rénovations et quelques dizaines de milliers de démolitions.
Alors justement, la démolition, on va en parler tout à l'heure, parce que justement, c'est le sujet du jour. C'est comment, demain, je déconstruis pour reconstruire avec, effectivement, ce souci de la frugalité, de la sobriété du matériau, des éco-matériaux, et bien sûr des problématiques qui sont liées à la logistique, parce que bien évidemment, les problématiques de nuisance et aussi d'émissions de carbone sont liées à la logistique. L'avantage du BIM, justement, c'est que ça permet de maîtriser la logistique et donc de réduire, mais il y a aussi la possibilité de préparer en kit, si je peux appeler les choses comme ça, ou prédécouper. J'ai même vu des imprimantes 3D en béton qui sont incroyables. Hein, on est capable aujourd'hui de dessiner des immeubles et quasiment de les assembler.
On l'a déjà fait il y a 3 ans.
Hein, voilà, c'est génial.
Mais du coup, il y a aujourd'hui, demain. Il faut bien distinguer. Oui. Parce que le propos, le bâtiment a un cycle long. Donc si on construit aujourd'hui un bâtiment qu'on saura bien démonter, parce qu'on ne sait pas bien démonter des bâtiments, par exemple, les escaliers aujourd'hui sont scellés, on ne sait pas les enlever. Exactement. S'ils sont bien vissés et qu'on repère et qu'on n'oublie pas grâce au numérique où ils sont vissés, on pourra les réutiliser. Ça, mais c'est pour des bâtiments qui seront amenés à évoluer dans plusieurs dizaines d'années.
C'est génial.
Mais bon, après, il y a des bâtiments qu'on va démolir aujourd'hui. Alors, la première chose qu'on pourrait
On sait qu'on va construire des immeubles qu'on va déconstruire, comme on sait qu'il y a certains immeubles qu'on va construire et dont on va utiliser les éléments.
Mais peut-être qu'on les déconstruira pas.
Pour les faire. D'accord.
Est-ce qu'on ne doit pas commencer par se poser la question de moins démolir?
Tout à fait.
Parce que démolir, c'est reconstruire du gros œuvre, même si on fait du réemploi, de la réutilisation, et c'est du prélèvement de ressources. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait de l'économie circulaire? C'est aussi pour prélever moins de ressources. Parce que derrière, en chaîne,
bien sûr,
on a la biodiversité.
Bien sûr.
Si on prend, il y a un exemple, il y a une vie, un projet là-dessus, on parle depuis plusieurs années avec des organismes là-dessus, c'est l'utilisation de granulats de béton. On récupère du béton, on le concasse et on le réutilise en granulats. À la place de granulats qui viennent d'une carrière.
Mais oui, bien sûr.
Et donc, on imagine bien le rapport entre une rivière, une gravière, et la biodiversité. Donc toutes ces actions vertueuses sont très importantes. Ça permet de globaliser un peu ce que c'est le monde du logement social, toujours connu pour être innovateur.
C'est très intéressant parce que ce que vous dites est d'autant plus d'importance dans une conjoncture inédite à l'égard du logement, où on voit qu'en fait on souffre d'une production dramatique de logements dans ce pays. Et que justement les nouveaux modes d'habiter comme les nouveaux modes de construction, pour une maîtrise des usages qui soit conforme à l'esprit contemporain de notre société, moi j'appelle ça plutôt une transformation anthropologique des modes d'habiter. Les bailleurs sociaux, il faut le dire, ont toujours été les locomotives du dispositif.
Mais aujourd'hui, il faut qu'ils soient les locomotives du dispositif pour transformer les logements qu'ils ont sans nécessairement les démolir, pour leur donner une deuxième vie. Ça, c'est le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. Hein. C'est un bâtiment qui aujourd'hui a besoin d'intervenir, on intervient pour qu'ils vivent aussi longtemps qu'un logement neuf.
C'est
à ce moment-là, on ne démolira pas. C'est aussi notre travail vis-à-vis des pouvoirs publics d'obtenir un financement comparable. Parce qu'il faut savoir qu'économiquement, parfois, pour des raisons d'aide, de fiscalité, il vaut mieux démolir et reconstruire que de rénover avec le même investissement ou un investissement moindre.
C'est très clair.
Ça, il faut en sortir, il faut le casser.
Merci bien. Alors, justement, Colline Blaison, directrice conseil chez Cycle Up, expliquez-nous un petit peu qui êtes-vous?
Alors moi je suis donc directrice conseil et études et cofondatrice de Cycle Up. Cycle Up, c'est une société qui a été créée il y a bientôt 5 ans à l'initiative de salariés de deux groupes cousins, un groupe d'ingénierie Aegis et un groupe de promotion et foncière ICAD. Cousins parce que c'est des groupes qui sont des filiales de la Caisse des dépôts. Donc ces deux groupes sont les actionnaires historiques de Cycle Up. Et depuis, il y a d'autres acteurs qui sont rentrés dans l'actionnariat, notamment la Banque des Territoires, la SMA BTP et pour finir l'entreprise Acorus. Donc c'est une société qui a été créée initialement pour mettre en place un outil qui permettra le développement du réemploi et de la réutilisation. Nous, on est vraiment sur ces deux axes-là et on n'est pas sur l'axe recyclage. Et cet outil, c'est une place de marché numérique, pour ne pas dire marketplace, qui permettent de mettre en relation des acteurs qui ont des ressources et qui souhaitent, donc qui sont des ressources issues de la rénovation, donc issues d'un curage ou de la déconstruction, avec des acteurs qui souhaitent concevoir.
Par exemple, je déconstruis un immeuble, j'aime bien dire déconstruction plutôt que destruction. Voilà, c'est un terme.
C'est le nouveau terme consacré.
Voilà, je déconstruis et puis j'ai plein de matériel, j'ai plein de choses extrêmement utiles et très intéressantes. Je peux placer ce que je fais sur la place de marché le cycle.
Tout à fait.
Et ça génial.
Ça va juste pas se faire dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il va falloir anticiper les choses grâce à un diagnostic ressources ou maintenant au nouveau diagnostic produit, équipement, matériaux, déchets, pour pouvoir identifier ces matériaux, les mettre en ligne sur CycleUp avant le démarrage du chantier, parce qu'on ne va pas déposer, on ne va pas curer de la même manière si c'est pour mettre en déchets et en recyclage ou si c'est pour réemployer derrière.
Il y a quelques très belles initiatives qui avaient été prises dans votre domaine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de MyBen, MyBen Company, qui est, je trouve ça génial. Moi, je trouve que l'idée de la frugalité ou d'une vision sur le réemploi, c'est vraiment ce qui va dominer certainement les générations. Et on comprend pourquoi. Voilà, ça nous laisse un débat extrêmement intéressant sur le sujet. Alors justement, y a un enjeu majeur pour le logement, on le sait. Alors, souvent, quand on parle de, vous savez, du zéro artificialisation, souvent les gens retiennent le zéro. Mais en fait, c'est pas zéro. On ne dit pas zéro artificialisation. On peut encore étendre le territoire, mais aujourd'hui, on sait que l'étalement urbain, on va dire, n'est plus de mise dans l'évolution des sociétés modernes. Moi, j'ai envie de vous poser cette question pour vous, Jean Malo. Compte tenu de ces injonctions qui sont parfois contradictoires, et on peut tous dire une inflation normative sans précédent, un empilement de la norme qui parfois nous contraint. On est tous d'accord que la loi climat et résilience est une très belle chose en soi. La RE 2020 va dominer effectivement un certain nombre de paramètres, sauf qu'il faut trouver les modèles économiques adéquats. Il faut surtout, le sous-jacent de tout cela, c'est bien loger les gens, quoi, loger les Français. Jean Malo, justement, comment, en fait, avec ces éléments-là, on peut aller vers une vraie frugalité de développement et de construction si on veut valoriser un patrimoine aujourd'hui?
Alors, c'est effectivement une question extrêmement intéressante, notamment la question des injonctions qui peuvent paraître contradictoires quand on les met les unes à côté des autres. Pour autant, je pense que c'est au cœur de contraintes fortes que, en fait, il est nécessaire de faire appel à l'intelligence collective. Et c'est un peu la démarche qui a été la nôtre quand on a été confronté à la problématique d'une opération un peu emblématique pour nous, qui est celle de Sartrouville. C'est de dire que nous avions effectivement des patrimoines qui étaient clairement obsolètes. On s'est posé la question de savoir si effectivement il était pertinent de les démolir, donc avec l'ensemble des acteurs. C'est de dire, mais finalement, est-ce qu'on a l'obligation de les démolir? Ils étaient vraiment techniquement obsolète dans les usages. Il y a la question de l'accessibilité handicapée qui se pose, il y a la question de l'adaptabilité des logements, il y a la question des performances thermiques, il y a la question des performances acoustiques. Aujourd'hui, les locataires effectivement ont des attentes en ce qui concerne un certain niveau de confort. On se pose de façon assez systématiquement la question, quand on engage une démolition, est-ce que c'est la bonne solution?
C'est vrai que le projet de Sartrouville, enfin, c'est la Cité des Indes dont vous parlez.
Exactement.
C'est un projet emblématique.
C'est un projet emblématique pour nous parce que, en fait, c'est un projet qui avait été amorcé dans le cadre de l'ANRU1. L'ANRU1, l'Agence nationale du renouvellement urbain, initié à l'époque par Jean-Louis Borloo. Quand on a fait le bilan, puisque c'était un des gros atouts de l'ANRU, c'était d'imposer dès le départ, effectivement, dans cette logique effectivement, de se projeter, de durable, de faire un diagnostic de ce qui avait été réalisé. Et donc, quand on a fait le diagnostic, on dit il faut aller plus loin. Et donc, la question s'est vraiment posée, parce qu'entre l'ANRU 1, qui était effectivement la réponse unique, c'était on démolit, on reconstruit, l'ANRU 2 est allé plus loin en disant est-ce qu'on est obligé de démolir? Est-ce qu'on ne peut pas réhabiliter? Est-ce qu'on ne peut pas renouveler? Je vais donner un exemple par rapport à ce qui était évoqué tout à l'heure par Pierre. On a une opération à Évry, où là, typiquement, on a des difficultés donc sociales, de concentration, un fort taux de concentration de logements sociaux. Et donc, avec la ville et avec les partenaires de l'ANRU, en fait, la réponse qu'on a souhaité apporter, c'est de dire finalement, on ne va pas démolir le bâtiment. On va reloger, on va déconventionner, et après, on va revendre le patrimoine à un acteur, donc en l'espèce Nexity, pour pouvoir le remettre sur le marché, donc avec des travaux de l'accession pour apporter une certaine mixité. Et ça, c'est une réponse intelligente.
Très intéressant, bien sûr.
Le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Je pense que tout le monde est conscient. Mais pour autant, c'est des solutions qui ne sont pas forcément duplicables. Et quand je dis que la contrainte a cet élément intéressant, c'est-à-dire que ça oblige à être intelligent, ça nous oblige à avoir des réponses, non pas toutes faites, mais ciblées. C'est-à-dire qu'en fonction des contextes, en fonction de l'environnement, on est obligé d'adopter des réponses ciblées. Et la réponse sur Sartrouville qui s'imposait, c'est-à-dire qu'on avait la chance d'être sur un projet qu'on avait porté avec la ville, mais aussi avec un acteur privé, donc Bouygues Immobilier. J'étais avec City, là on était sur Bouygues Immobilier, où en fait on avait imaginé porter le projet ensemble, le fait de dire il y avait une partie des logements qui étaient démolis, qu'on allait reconstruire derrière des logements pour faire de l'accession, mais aussi du logement social, pour apporter une certaine homogénéité. Et donc là, on dit, il y a quelque chose à faire. Et ça tombait bien, puisque l'Agence nationale du renouvellement urbain avait lancé un appel à manifestation d'intérêt, de dire, voilà, nous, on veut réfléchir différemment, porter des solutions innovantes. Et donc, faites-nous des propositions. Et donc, on a investigué, voir ce qui était possible de faire. Et avec notre partenaire, on dit, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une démarche un peu globale, en essayant de contourner une difficulté principale en ce qui concerne l'économie circulaire, c'est la question de la filière. C'est-à-dire qu'en gros, entre le producteur de déchets et le consommateur de déchets, y a une question de temporalité et puis il y a une question de distance qui se pose.
Là, pour le coup, pardonnez-moi, mais on va remonter. Non, mais c'est très intéressant. Ouais. Et merci pour cette transition. Vous devriez faire du journalisme.
Hein. Ouais,
parce que justement, c'est le cœur du réacteur de la création de Cycle-Up. Hein.
Tout à fait. Le sujet des filières, c'est le sujet principal. En fait, nous, on a créé du coup cette place de marché numérique qui permet de mettre en relation les acteurs. Il a fallu motiver les premiers acteurs qui sont les maîtres d'ouvrage à pouvoir mettre en avant les matériaux qui étaient sur leur projet et qui allaient être disponibles.
Concrètement, ça se passe comment? Je m'inscris d'abord, je suis référencé, c'est...
Alors, n'importe quel acteur professionnel.
Oui.
Du monde du bâtiment,
se connecte à la plateforme,
peut se créer un compte et peut aller regarder.
Il est quoi? Il est abonné? Il est
Non, c'est un service qui est gratuit. Le business model sur la plateforme numérique, c'est de prendre une commission sur le prix de vente. Donc s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commission. Donc, ça permet aussi de motiver les maîtrises d'ouvrage qui ne prennent pas de risques économiques en faisant cette action-là. Donc suite au diagnostic, c'est mis en ligne sur Cycle-Up. Ensuite, on a des marques d'intérêt.
Le diagnostic, c'est un préalable, on est d'accord.
C'est obligatoire, le départ, le point zéro. D'accord, sans diagnostic, on ne peut pas lancer de démarche.
C'est vraiment la pierre angulaire de la démarche.
Okay.
Donc, suite à ce diagnostic-là, on va mettre en ligne sur Cycle-Up. En parallèle, on va consulter les entreprises de curage et de déconstruction en fonction de notre projet pour qu'elles intègrent dans leur marché la dépose sélective des éléments, mais ça en option, puisque l'idée, c'est de... dans la plupart de nos projets, on va lancer la dépose sélective et le conditionnement des matériaux pour lesquels on aura trouvé un repreneur, donc soit à l'extérieur du site, soit parfois c'est sur site. Nous, on maximise le réemploi sur le site quand c'est possible et quand il y a un souhait de la part de la maîtrise d'ouvrage. Et du coup, en se limitant aux matériaux qui ont trouvé preneur, on évite de déposer l'ensemble des matériaux, potentiellement d'avoir des coûts et du temps de curage qui soit plus important. Et donc, on va fonctionner en flux tendu. Donc ça, c'est sur la partie numérique. Sauf qu'aujourd'hui, pour que le réemploi se développe vraiment, il faut évidemment avoir de l'offre et de plus en plus d'offres pour qu'il y ait de la demande, en fait.
Ouais. Il faut massifier, en fait.
Mais on se rend aussi compte que le numérique, c'est très bien parce que c'est un outil qui permet de maximiser, de toucher le plus d'acteurs possible, le plus de bâtiments possible. Mais on a aussi besoin de structures physiques qui vont récupérer ces matériaux, les stocker temporairement.
Quoi, des entrepôts logistiques, par exemple?
Des entrepôts logistiques. Donc, nous, il y a un an, on a développé un entrepôt logistique à Saint-Ouen. On en ouvre un autre à Lyon en ce moment.
C'est des grosses surfaces?
Non, Saint-Ouen, c'est 1000 mètres carrés.
Ah oui, c'est petit.
Bon, on aimerait bien avoir plus, mais c'est déjà un bon début. Oui. Et en fait, cet entrepôt, il va servir de...
Mais l'idée, c'est de mailler le territoire, justement, d'avoir une capillarité d'entrepôts de taille entre 1000 et 20 000 mètres carrés, quoi, je veux dire.
Tout à fait. En tout cas, d'être à proximité des grosses métropoles où il y a des rénovations et des déconstructions régulières pour pouvoir capter le gisement, le reconditionner, le remettre en état et pouvoir le remettre en œuvre derrière.
En fait, vous faites toute la boucle. Vous faites la mise en relation, le diagnostic préalable, bien évidemment. Les échanges qui vont avoir lieu justement sur les matériaux qui vont être mis en place. mais aussi tout le support logistique derrière.
Mmh. C'est vrai que le réemploi, c'est une démarche qui est récente, en tout cas qui a on va dire, entre 5 et 10 ans. On en reparle, mais évidemment, tout le monde en faisait avant l'ère industrielle. Mais ça a été très limité par les normes, les assurances, etc. Et c'est vrai que comme c'est très récent, il faut sensibiliser les acteurs, changer les pratiques, trouver les bons outils. Et donc, nous, étant une jeune société, on a eu cette idée-là de marketplace qui est très bien, mais on s'est bien rendu compte que ça ne suffisait pas. Donc, il a fallu développer du conseil et des études, tester la plateforme physique.
Et c'est vous qui avez eu l'idée de la fondation de ce cas-là ?
Oui, avec...
Vous êtes la cofondatrice ?
Tout à fait.
Est-ce que ce n'est pas le fruit aussi d'une génération, votre génération, qui a ce niveau de conscience, peut-être, il faut l'assumer, que ma génération, parce que je pense que j'ai quelques années plus que vous, n'avait pas forcément. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le contemporain, vous voyez ce que je veux dire, une prise de conscience dans laquelle il n'y a plus de débat. On a vraiment, aujourd'hui, de façon collective, d'ailleurs, vous avez évoqué, Jean Malou, l'intelligence collective, voilà, un mouvement qui, définitivement, a envie de le faire.
Je pense qu'autour de la table, on est tous convaincus.
C'est un choix qui donne du sens.
Et moi, avant de développer Cycle, je travaillais déjà dans la conception durable, mais on travaillait sur des bâtiments, des rénovations de bâtiments très performantes d'un point de vue énergétique, consommation d'eau, qualité acoustique, qualité de l'air, etc. Sauf qu'on arrivait dans le bâtiment et en fait, il était plein de matériaux en très bon état. Et tout ça, comme ce n'était pas anticipé, ça partait à la benne.
Ah ouais.
Donc c'est de ce constat, après quelques années de travail, que... Je me suis dit que le réemploi, il fallait vraiment...
Voilà. Vivons-nous une société dans laquelle on signe finalement l'arrêt de mort de l'abondance au sens où nous l'avions connu ? Je dirais pas ça, je dirais surtout l'arrêt de mort de l'hyperconsommation. Et je pense que c'est plutôt ce qui a du sens. Christine, vous êtes associée donc à Batirim, à ce processus de construction, et vous êtes sur la Cité des Indes aussi. Alors moi, j'aimerais qu'on soit hyper pratique. Il y a un enjeu pour Millenbee, bien sûr, dans ce projet de déconstruction. Le digital, pour vous, est un support extraordinaire. Concrètement, comment ça fonctionne ? Comment vous mettez en relief ce concept que vous avez chez Batirim ?
Alors, je vais répondre à la question, mais juste pour te démentir, enfin pour vous démentir, Sylvain, la fondatrice de Batirim est une jeune retraitée maintenant. Qu'il a fondé il y a quelques années. Donc, tout ça pour dire, je rebondis sur...
Oui, on n'est pas obligé d'avoir 30 ans pour monter une start-up.
Il y a l'expérience, il y a les constats et puis il y a des visions qu'on développe. Et voilà, je pense que c'est surtout, avant tout, aussi une prise de conscience à un moment donné qui nous interpelle tous sur le sujet.
Bien sûr.
Alors, concrètement, effectivement, nous accompagnons Millenbee Habitat sur le projet de la Cité des Indes, qui est un projet à double consonance, et c'est ça qui est passionnant. C'est à la fois un projet en mode économie circulaire, donc ce qu'on appelle maintenant de la déconstruction sélective versus une démarche de démolition plus traditionnelle, donc vocation à booster le réemploi et le recyclage. Et puis, autre consonance qui est de s'inscrire, dans le cadre du projet Henri Plus, dans un vrai projet de transformation digitale. Donc nous intervenons cette fois-ci non pas en tant qu'Amorec assistance à la maîtrise d'ouvrage ressources économie circulaire, mais en tant que AMO digital, qui est un nouveau métier aussi, je pense, qui a sans doute vocation à émerger. En tous les cas, on apprend en marchant sur ce sujet-là. Donc,
en fait, vous êtes même dans la maîtrise, dans l'AMU, quelque part. C'est presque l'assistance à la maîtrise des usages. Parce que
complètement,
vous êtes hyper compatible avec l'esprit contemporain dont on parlait tout à l'heure.
Tout à fait, parce que là, on va vraiment mettre l'idée de cette collaboration, c'est de s'inscrire effectivement dans les stratégies, dans les ambitions de réemploi de la maîtrise d'ouvrage, de Millenbee Habitat, dans son mode de fonctionnement, son mode d'organisation avec les différents partenaires, donc sa maîtrise d'œuvre, son assistant maîtrise d'ouvrage, plus tard l'entreprise de déconstruction. Et l'idée, c'est de mettre au service l'outil pour... Donc l'outil, concrètement, c'est quoi ? C'est une interface web avec une plateforme collaborative où on va pouvoir injecter un certain nombre d'informations. Et c'est une application mobile sur tablette ou sur smartphone qui permet de faire un certain nombre de constats sur site. Donc, premièrement, le diagnostic produit équipement matériaux. Donc aujourd'hui, là, je crois que le rendu est au 1er juillet, donc demain. Le diagnostic des deux premières tours de la Cité des Indes est aujourd'hui digitalisé et va pouvoir permettre d'impulser, on va dire, la démarche de recherche des filières et de réemploi pour la suite, et d'aider à Millenbee Habitat à se positionner par rapport au potentiel de réemploi qui aura été identifié. Et puis ensuite, effectivement, on va mettre à disposition l'outil au niveau de la maîtrise d'œuvre, de l'assistant maîtrise d'ouvrage, du déconstructeur à terme, pour que l'outil permette de suivre l'ensemble de l'opération sur toute la durée du projet, du diagnostic jusqu'à la phase de bilan de chantier et de récollement, avec au cœur de tout ça, et c'est important dans la démarche de réemploi, apporter de la traçabilité, du suivi, de la visibilité.
Est-ce qu'on peut s'en servir après ? Est-ce qu'on peut piloter ? Est-ce qu'on a une souche numérique qui permet ensuite, une fois que tout ça c'est fait, de suivre l'évolution du bâtiment, de le piloter ?
Alors,
une vie avant, pendant et après ?
Alors, comme la maquette numérique est créée, comme à la fin du projet, il y aura un état réel du bilan de réemploi qui aura été fait, effectivement, ensuite, alors là, c'est la déconstruction, mais quand on est sur, par exemple, des projets de rénovation, où on fait aussi des maquettes numériques sur des projets de rénovation, où on identifie ce qui va être conservé, ce qui va être réemployé in situ versus ce qui va être réemployé ou réutilisé ex situ. Et ben pour les projets futurs ou le suivi ou les rénovations peut-être futures qui pourront impacter le projet, effectivement, il y aura déjà une base numérique avec toute la donnée et les fiches produit par produit de ce qui aura été réutilisé ou réemployé sur le site.
Pierre, réaction ?
La première réaction, c'est que je me demande s'il ne faut pas préciser réemploi, réutilisation.
Tout à fait. Oui.
Et recyclage. Hein. Réemploi, on démonte une fenêtre, on la réemploie de la même manière. Mm. Réutilisation, il y a une petite transformation à prévoir. Et recyclage, c'était l'exemple du granulat de béton. On a un panneau de béton, on le broie et on le remet. Bon. Donc ça, c'est je crois que c'était utile de le préciser parce qu'on doit travailler sur le tout. C'est-à-dire, peut-être pas avec la même démarche.
Absolument.
Le réemploi a besoin d'échelle importante et de marketplace. Le recyclage a besoin de processus industriels.
De transformation. Ou de reconditionnement.
Qui aussi ont besoin de marché, puisqu'ils ont besoin de volume.
Bien sûr.
Et il faut vraiment savoir jouer sur les trois dimensions.
Sur les trois tableaux,
si on veut y arriver vraiment. Pourquoi on veut y arriver vraiment ? C'est parce qu'on veut préserver la ressource. Il ne faut jamais oublier, parce qu'on parle un petit peu aussi de clarification, on parle carbone et on parle préservation des ressources. Ce sont deux démarches qui sont parfois ça ne marche pas nécessairement toujours ensemble. Pas parce qu'on fait peu d'émissions de carbone, même sur la construction, qu'on va pour autant préserver la ressource. Par exemple,
je parlais du
granulat de béton toujours. Le granulat de béton, si on a à proximité du même endroit une carrière, ben, le bilan carbone du granulat de béton ou du granulat de carrière, il sera le même.
Je suis d'accord avec vous. Alors, mais parce qu'en fait, oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a souvent, même dans le public, des notions un peu confuses sur justement la ressource en termes d'économie et de volume, de ressources renouvelables. C'est bien le sujet du jour aujourd'hui. Le monde se penche aujourd'hui sur le caractère renouvelable de la ressource, parce que finalement, c'est intéressant, j'irais même d'un point de vue philosophique. Notre terre est ronde. Une fois qu'on a fait le tour, on ne peut pas faire un deuxième tour. Donc la croissance, elle a aussi une limite. C'est ça que je veux dire, c'est que les curseurs de la croissance. Vous vouliez réagir sur ce que disait Pierre-Jean Malot ?
Non, je voulais surtout rebondir sur l'intérêt qui a été le nôtre en tant que maître d'ouvrage par rapport à la proposition que qu'offrait Bathyrim. Il y avait effectivement tout le côté technique qui était intéressant dans la question de la traçabilité, mais il y a deux choses qui nous importaient. C'était la question de la montée en compétence de nos équipes, parce que nous sommes persuadés que ça nécessite aussi une montée en compétence des maîtres d'ouvrage. Donc effectivement, comme c'était rappelé, on a une opération qui va se dérouler en trois étapes successives, et en fait plus on va aller, plus l'accompagnement de Bathyrim va être léger pour que nos équipes puissent reprendre la main
et prendre le relais et même s'approprier finalement le dispositif pour l'intégrer complètement.
Exactement, parce que nous avons aussi une conviction, c'est-à-dire que en fait dans la question de l'économie circulaire, il y a effectivement le côté circulaire, mais il y a aussi le côté économie, et on est persuadé que le déchet aujourd'hui c'est considéré comme un coût, mais ça a aussi une valeur qu'il faut être en capacité d'optimiser et pas pour faire plaisir à nos actionnaires, mais pour pouvoir effectivement investir davantage sur nos patrimoines pour pouvoir offrir le meilleur produit à nos locataires. Donc ça, c'est aussi un des éléments qui nous a intéressé dans la proposition qui a été faite par Bathyrim. C'est pas le côté gadget qu'on pourrait dire, on numérise, on fait du BIM, on va passer au RIM, c'est absolument pas le sujet. C'est notre capacité pour un acteur comme nous qui avons un patrimoine, pouvoir quantifier effectivement en cas d'une déconstruction ce que ça représente. Et juste une petite chose aussi sur la question de l'économie circulaire et un point sur lequel j'insiste et sur la part que peuvent prendre les acteurs sociaux, les bailleurs sociaux dans cette démarche-là. C'est-à-dire que effectivement, dans l'esprit des gens, l'économie circulaire, c'est construction, démolition. Entre les deux, il y a l'usage.
Et très important.
Et entre l'usage, nous, effectivement, quand on envisage des solutions, on associe nos locataires. Et là, typiquement, on va mettre en place un dispositif où on va accompagner.
Vous pratiquez en amont une concertation qui fait qu'en fait, dans la maîtrise de l'usage, j'allais même dire dans l'assistance à la maîtrise de l'usage, vous êtes aligné finalement, vous avez une symétrie entre le besoin des occupants. Exactement. Que vous replacez au centre du dispositif.
On les replace au centre du dispositif, on met en place une ressourcerie locale, effectivement, pour pouvoir effectivement sensibiliser, parce qu'on a aussi cette conviction-là de dire un peu le colibri, hein, c'est chacun est acteur de l'économie circulaire à tous les points de vue. Les 7 filières, je ne vais pas les rappeler, mais voilà, il faut vraiment avoir cette idée de boucle et l'idée selon laquelle la démolition, je veux dire, on est en train de gérer le stock, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a un stock de patrimoine, mais surtout ce qui est l'enjeu, il est sur ce que l'on construit aujourd'hui aussi, qui va être le flux de ce qu'on va démolir demain ou reconstruire ou réhabiliter demain.
Vous avez évoqué la question, ce sera la dernière partie de notre émission, je trouve ça passionnant vraiment comme sujet. Je trouve qu'on devrait en faire plus souvent parce que c'est vraiment une thématique qui, à mon avis, mérite d'être développée. C'est le modèle économique. Pour être très clair, le réemploi, ça a un coût.
Oui.
Ça a un coût. L'AERE 2020 qui a été mis en place avec la loi climat et résilience, mais aussi tous les dispositifs locaux, régionaux, sont aussi interdépendants. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir pris cette prise de conscience de l'interdépendance, que ce soit ici en France, en Europe et dans le monde. Je vais paraphraser la phrase de notre président, il n'y aura pas de planète B, hein, pour être très clair. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, autant le faire avec beaucoup d'harmonie. Alors, la question, c'est comment... on parle d'économie sociale et solidaire. C'est l'explosion de l'économie sociale et solidaire. J'ai été dans une autre vie le cofondateur de l'École nationale de l'économie sociale et solidaire. Justement, et un ancien du groupe AXA, accessoirement. Question, sans tabou, hein, sans éluder. Comment on fait pour joindre les deux? Une injonction sociétale, faut le dire, contemporaine, de dire voilà, il faut qu'on aille vers le réemploi, la réutilisation, et de faire cohabiter un modèle économique qui le rend pérenne, qui est générateur de valeur, qui est créateur de valeur, qui rémunère, mais disons-le, pourquoi pas aussi des investisseurs. Parce que je trouve ça extrêmement sain que ce soit le cas.
Et sans force, d'emploi également.
Créateur d'emploi, mais surtout qui revitalise des secteurs, des territoires qui en ont bien besoin. J'aimerais que chacun vous puisse vous exprimer sur cette question. Je vais commencer par vous, Pierre.
Déjà, l'injonction, elle suit la société. Les acteurs les plus avancés de la société sont en avance sur l'injonction. Et les bailleurs sociaux, qui sont des acteurs du bâtiment, la construction, l'exploitation et du logement des gens, qui sont avancés, ont souvent précédé les injonctions. Ils ont fait des opérations bas carbone avant l'AERE 2020. Donc, je pense qu'il faut aussi se mettre dans ce sens-là. C'est comme quand on a parlé de freins. En fait, ce n'est pas des freins dont il faut parler, c'est un chemin.
Absolument.
Ce chemin, il faut passer par des étapes, puis il faut développer des marchés.
Et d'ailleurs, la connotation est nettement meilleure, plus positive, quand on parle de chemin plutôt que de frein. Voilà.
Alors, après, il y a l'enjeu de la valorisation. Alors, si on fait une valorisation carbone, il faut quand même rappeler qu'un matériau réemployé n'émet pas de carbone, y compris dans la RE 2020. Donc, c'est déjà autant de moins. On comprend bien pourquoi il est fait. Peut-être qu'il a fallu beaucoup de carbone pour le faire, c'est de la matière plastique, mais il existe. Si on la réutilise comme il est, il n'y a pas de souci. Après, le modèle économique, on voit l'augmentation des coûts des matériaux actuellement.
Ah oui, c'est...
Bah, plus on augmente les coûts des matériaux pour faire des produits neufs, plus réutiliser, voire recycler des produits existants dont la matière est là.
C'est une façon d'endiguer l'explosion des matières premières. C'est ça que vous voulez dire,
nécessairement,
en fait.
Oui, c'est des gisements.
Intéressant.
Donc quand on raisonne gisement, parce qu'en matière première, on parle de gisement. Quand on parle on va chercher dans la terre les métaux, on parle de gisements. Ben, voilà, des gisements. Ces bâtiments-là.
Très intéressant.
Alors, on n'est pas au bout, hein, il y a du chemin. Mais à terme, rien ne dit que ça sera plus cher.
Ça serait mieux que les politiques nous écoutent, là, pour le coup. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est que, on vit une période inédite sur le plan géopolitique avec l'explosion des matières premières que personne n'avait vu venir. Hein. Ce qui se passe actuellement en Europe, personne n'avait pu l'anticiper. Mais c'est aussi une façon de dire, notre ressource puisqu'on ne va plus la chercher à l'extérieur, puisqu'il y a une flambée de ces matières, eh bien, on l'a peut-être à côté de chez nous.
Je ne sais pas quantifier, mais en tout cas, il y a une part sans doute significative.
Ah, mais moi, je suis convaincu que
c'est un jugement. Il y a une vraie logique de considérer effectivement les bâtiments comme une vraie banque de matériaux, une vraie banque de ressources. Juste, ouais.
Alors, justement, sur le plan du... Comment on fait cohabiter les deux? Parce qu'il faut... On est d'accord, Colline, qu'il faut que ça cohabite.
Et ça cohabite
une
déjà,
raison économique pour rendre pérenne un modèle qui est un modèle social, anthropologique, de transformation durable de nos sociétés modernes.
Pour vous donner quelques exemples, nous, notre entrepôt, on l'a développé avec un déconstructeur qui s'appelle Bouvelot TP, donc qui est sur le même site que nous et qui, lui, fait du concassage pour revendre les granulats en vue de leur recyclage. Et à côté, nous, on a notre tente démontable pour être montable sur un autre site. Et l'exploitation du site est réalisée par des salariés en insertion de l'entreprise Ares. Donc déjà, ça fait un an qu'on fait travailler deux personnes, trois jours par semaine, sur le réemploi. On vient de finir un projet d'aménagement intérieur d'une halle dans le cadre de la Biennale d'architecture et de paysagisme d'Île-de-France, qui est pas très loin, qui est à Versailles, avec des matériaux de réemploi. Et ces matériaux de réemploi, ils ont été déposés et reconditionnés par Ares aussi, qui est une entreprise d'insertion. En fait, la déconstruction sélective, le reconditionnement, la remise en œuvre de matériaux dans l'emploi, c'est un levier formidable pour le développement de l'emploi, de l'insertion. Et aujourd'hui, il y a déjà des programmes qui ont été mis en place et qui sont disponibles. Pôle emploi peut orienter les personnes vers ces programmes, notamment le programme de formation de techniciens valorisent bâtiments. Nous, on a pris un stagiaire au mois de mai... de technicien valoriste, et là on le recrute. Et il y avait une dizaine de personnes dans cette première formation, et ça va continuer à se développer.
C'est ça la vertu du dispositif, c'est que ça répond à des besoins sociétaux dans lesquels il y a une ligne économique qui est respectée et qui donc rend pérenne le modèle. On est d'accord là-dessus?
Oui, tout à fait. En tout cas, sur le réemploi avec voilà. C'est quelque chose.
Il est modèle. Jean Malo, sur la question du modèle, pour notre dernière partie justement, pour nous dire que ce mouvement générateur, finalement, quelque part d'espoir pour nos sociétés. Parce qu'il faut quand même que...
Faut quand même qu'on en trouve des espoirs.
Oui, il faut. Mais,
ça fonctionne. Hein. On est d'accord. Enfin, voilà, on est là pour témoigner que ça fonctionne et que c'est déjà en marche. Hein,
et que ça fonctionne. Sur le modèle économique, ça rend pérenne les opérations. Donc, ça veut dire que c'est rentable, c'est profitable et ça répond à un équilibre à tout point de vue.
Alors, j'ai envie de dire, je pense que tout dépend du thermomètre que vous prenez. C'est-à-dire qu'effectivement... Quand je dis que la contrainte nécessite effectivement de faire appel à l'intelligence, c'est vrai qu'il faut sortir un peu de ce côté un peu binaire. Excusez-moi de dire, on considère juste la dimension économique financière. Je pense que à côté de la dimension économique financière, il y a tout un ensemble d'autres impacts effectivement sur lesquels il faut qu'on s'habitue à réfléchir et à intégrer dans nos réflexions et dans nos choix. Il y a des dispositifs financiers, économiques qui commencent à le prendre en compte avec les indicateurs extra-financiers.
Oui, donc ESG, RSE, vous avez Gessinia qui a converti en 5 milliards d'obligations de portefeuille en green bonds. Donc des ratios extra-financiers qui viennent finalement de ministres. Ouais. Je trouve que c'est le...
Et donc moi, je suis d'un naturel optimiste malgré effectivement la situation actuelle et j'ai une certaine confiance dans la capacité effectivement à progresser. Donc ce que je pense, c'est qu'on est sur un temps qui doit être un temps long. On est plutôt dans la bonne direction. C'est-à-dire que les problématiques sont posées, elles sont là. On est passé, je trouve que c'est un élément intéressant dans la loi, à la question de la transition énergétique, qui va un peu doucement, à la question de l'urgence climatique, où là, on dit, OK, on y va, il faut vraiment y aller. Donc, ce n'est pas suffisant. On a encore été rappelé à l'ordre récemment, mais pour effectivement pour inaction climatique. Mais voilà, il y a des prises de conscience, il y a des avancées qui se font. Je pense qu'il faut qu'on soit optimiste, il faut qu'il y ait des gens qui aient des convictions, je pense qui puissent être en capacité de les porter, effectivement, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. C'est utile de le rappeler. Étant plus près de la deuxième catégorie que de la première, je pense qu'il est utile de le rappeler. Mais c'est vraiment ça. Et je pense, et ça aussi, je dois le rappeler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle... de crise du logement, de choses comme ça. Vraiment, le monde du logement social, a toujours été précurseur sur ces thématiques. Effectivement, c'est encore une fois bon de le rappeler. La RE 2020, ce n'est pas une découverte pour le monde du logement social.
Absolument. Et vous l'aviez d'ailleurs à plusieurs niveaux, d'ailleurs, que ce soit les modes de construction, déjà anticipé. Ouais. Merci.
Donc le dernier mot, confiance. Oui.
Voilà, confiance, ça c'est bon, ouais. C'est très bien, parce que c'est bien de ça dont on a besoin aujourd'hui. Ouais. Merci Jean-Marie. Okay. Christine, justement, pour conclure sur ce sujet-là, le modèle est pérenne, ça fonctionne, et l'équilibre est respecté.
Alors, le modèle pose ses bases. Les premiers chantiers sur lesquels on commence à avoir du recul maintenant en termes de résultats, sont probants à la fois en termes de tonnes ou de pourcentage de réemploi réalisé. La mise en mouvement de tous les acteurs, le démarchage et l'identification des acteurs de réemploi, des différentes filières. Comme disait Colline, effectivement, il y a les plateformes physiques, il y a les plateformes numériques, mais il y a tout un maillage territorial très fin, une typologie d'acteurs qu'il faut aller chercher, qui des fois ne se connaissent pas eux-mêmes. Hein. On va chercher des fabricants, des petits fournisseurs, des artisans, des collectifs de designers, d'architectes. Enfin voilà, il y a foison de possibilités de réemploi. Il y a un travail à faire effectivement sur poser le processus de déconstruction sélective qui pour moi est effectivement encore novateur. Le digital peut aider, pas que, mais en tous les cas ça c'est un moyen d'apporter de la visibilité sur la data, parce que je suis convaincue que c'est par la preuve et par les résultats qu'on fera la meilleure publicité, la meilleure promotion de l'ensemble de cette démarche. Et pour simplement rebondir sur ce que disait Jean-Madit, l'intérêt aussi dans le cadre de la Cité des Indes, c'est qu'on va modéliser deux tours, mais comme on est sur un patrimoine architectural qui est à caractéristique équivalente, qui a une harmonisation architecturale, ce qu'on va faire sur les deux tours servira sur les 6 autres ou 7 autres tours supplémentaires à déconstruire dans les 7 prochaines années. Donc c'est autant de temps gagné sur la mise en place des modes opératoires qui vont être déclinables, l'enchaînement des étapes qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus structuré. Donc oui, le modèle est en train de poser ses bases, et pour parfaire le tout, il faut des résultats, mais il faut effectivement que poursuivre ce travail d'acculturation, de sensibilisation, de formation, parce que tout le monde n'est pas encore au fait, même si la réglementation pousse derrière, et dans tous les cas, c'est le sens de l'histoire, on n'y échappera pas.
Alors, en tout cas, je vais vous dire à toutes et à tous que ça m'inspire finalement une maxime qu'avait Denis Diderot, le fameux encyclopédiste, qui disait que le monde est réparti entre deux types de personnes, ceux qui voient le monde dans le monde que ce qui est, et d'autres qui voient le monde que dans l'immensité des possibles. Et je pense que vous êtes tous les quatre exactement dans cette configuration, et je trouve ça extrêmement réjouissant. Merci à toutes et à tous. Voilà, il faut qu'il y ait un terme à notre table ronde. Voilà, c'est terminé pour cette table ronde économie circulaire et nouvelles pratiques prospectives en partenariat avec Mille et une vies habitat, dont on rappellera d'ailleurs le caractère innovant sur ce type de contenu. Likez, partagez. Le podcast est toujours disponible sur l'application. Vous pouvez aussi, bien évidemment, nous apporter la pierre à l'édifice. Puisque, croyez-moi, ce type de contenu méritera, encore une fois, d'être sans cesse renouvelé. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on vous apportera les clés de compréhension. Je voudrais remercier Jean-Malo Pelet. Merci Jean-Malo d'être venu sur le plateau, directeur en aménagement et grand projet valorisation foncière chez Mille et une vies habitat. Un grand merci à Christine Bralet, directrice ingénierie et opération chez Batirim.
Merci.
Un grand merci à Colline Blaison, directrice conseil et études chez Cyclop. Merci. On va suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt ce que vous faites. Et un grand merci à Pierre Pric, adjoint au directeur de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales à l'Union sociale pour l'habitat. On va se revoir, Pierre, fin septembre à Lyon. Belle journée à tous. Merci. Et on se revoit après.
Merci.
Au revoir.
La MIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio Immo et Radio Territoria. Mmh.